Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, on accueille Jean Tempère, qui a écrit Le choix d'Emilienne aux éditions de Boré. Mais c'est pour cela qu'il est avec nous aujourd'hui, qu'on va découvrir son nouveau roman. Juste avant, on parlera un peu des deux romans qu'il a fait avant. On le retrouve dans quelques instants, Le choix d'Emilienne, Jean Tempère.
Si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá.
Ave María, Lola, conmigo vas a acabar.
Ay, mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar.
Ave María, Lola, conmigo vas a acabar.
A ti que te gusta mucho, a mí que me vuelve loco.
Voilà, Jean Tempère est avec nous pour parler de son livre Le choix d'Emilienne. Jean, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Jean, tout d'abord, bien, on va parler. Alors c'est vrai que t'es pas un auteur très prolifique, mais on va dire que toi, c'est un peu ton loisir déjà.
Oui.
Parce que tu travailles quand même à côté.
Oui, oui, j'ai une activité professionnelle, donc effectivement. D'autant plus que bon, mes livres sont quand même basés sur des faits historiques, donc ils génèrent un travail de dépouillement d'archives, d'interviews d'historiens locaux, donc il y a un gros travail en amont.
Alors, tu as quand même écrit deux livres avant. Alors, le premier, c'était Le Bourassou, les mémoires d'un papy centenaire, en quelques mots.
Oui, donc c'est un livre qui est sorti en 2002, vous voyez, ça fait un peu de temps. Mais bon, c'est un livre que j'ai écrit à travers les souvenirs de mon grand-père, donc qui avait 100 ans quand le livre est sorti. Donc c'est vraiment les mémoires d'un papy centenaire. Il avait une mémoire phénoménale et on va dire que c'est une photographie des 50 premières années du 20e siècle à travers sa vie. C'est le roman d'une ville, Bourassou. Et ça nous permet de nous replonger dans la Haute-Loire d'autrefois à partir de 1900. Son premier souvenir, c'est 1906.
Oui, ce qui fait que, surtout que c'est des siècles où il y a eu une forte évolution.
Oui, donc dans le Bourassou, c'est vrai qu'on découvre un peu cette phase d'arrivée du progrès, l'électricité, l'automobile, les machines à vapeur. Donc c'est vrai que bon, c'est aussi donc comme je disais, une photographie de la vie au village, de la vie à la ferme, et puis l'arrivée des guerres, la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment les 50 premières années du 20e siècle, et puis les petits métiers. Lui, il était marchand de vin, donc on raconte un peu le travail de marchand de vin. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui permettent de se plonger dans la Haute-Loire d'autrefois.
Et puis c'est des gens qui ont eu deux guerres, qui ont connu deux guerres quand même, 14-18 et 39-45. Donc il n'y a pas beaucoup de générations qui en ont connu deux quand même.
Oui. Donc mon grand-père.
Ou qui les ont faites même.
Voilà, donc mon grand-père a fait la deuxième, mais bon, il a été touché par, comme tout enfant de son âge, parce que son père est parti la faire. Et puis ça a été effectivement l'arrivée de réfugiés et puis les morts qui s'égrenaient dans toutes les communes de France.
Oui, c'était énorme, c'est-à-dire que 14-18 a été très meurtrière. Alors après c'était un petit peu plus soft, les sirènes du lac, c'était pas du tout pareil. Donc ce roman, donc tu me disais avant de commencer, c'est un roman qui a bien marché, 5000 exemplaires de vendus, c'est quand même bien.
Oui, c'est bien, oui, on va pas se plaindre. C'est vrai que bon, De Boré est un éditeur national, donc il a une diffusion au niveau national, forcément. C'est un roman historique, une fresque, qui nous entraîne du Mézin, du plateau du Mézin, jusqu'à Baccara, en Meurthe-et-Moselle, au mois d'août 1914. Donc c'est vrai qu'on navigue également un petit peu dans une grande partie de la France, mais les trois quarts du livre se déroulent en Haute-Loire. Mont-Mézin, le Puy-en-Velay, je reconstitue tout le Puy de la Belle Époque, notamment à travers le dépouillement des archives municipales, le Puy en 1905, et puis un petit chapitre sur Chérac, donc pour ceux qui connaissent l'Amblavèse, voilà où j'habite.
Oui, puisque tu habites du côté de Chamalières.
Voilà.
C'est ça. Alors, ton dernier livre qui vient tout juste de sortir, donc Le choix d'Emilienne, là, tu vas nous entraîner dans un, on va dire, dans une usine de coiffe de chapeau. Alors, moi, je découvre un peu parce que c'est vrai que, bon, c'est ce que les coiffes, tu m'as expliqué un peu ce que c'était. Et à l'époque, quand même, c'était une industrie importante.
Oui, donc l'usine de coiffe à chapeau Auguste Canard, très exactement, qui était le plus gros employeur de la ville du Puy. Il s'est installé dans les années 1893-14 au Puy. Hein, c'est un entrepreneur qui avait créé son activité en 1879 à Lyon et qui a choisi de s'expatrier sur le Puy, notamment à cause de la main-d'œuvre qui était plus qualifiée grâce à nos dentelières. Donc il était spécialisé dans la fabrication des coiffes à chapeau. Donc ce qu'on appelle le fond de coiffe, qui se trouve au fond du chapeau, hein, qui est cousu à la garniture de cuir, qui est également au fond du chapeau, et sur lequel est imprimée la marque, l'adresse du fabricant du chapeau. Donc lui, il sous-traitait pour tous les chapeliers ce fond de coiffe.
Ok, donc ça nous permet, au travers de ton roman, de découvrir justement déjà ce qui a complètement disparu. Ça, c'est...
Ah oui, ça,
enfin, au moins de la Haute-Loire.
Oui, non, mais ça a disparu. Bon, c'est vrai que c'était à l'époque des chapeaux de forme, c'était donc un fond de coiffe qui était circulaire, qui était rond, hein, qui était en tissu de satin, voilà. Et c'est vrai que bon, l'industrie a disparu, notamment, on va dire pour ce qui est du cas d'Auguste Canard après la Grande Guerre, hein, puisqu'ils ont été obligés de se reconvertir et de fil en aiguille, hein, ils se sont retrouvés dans le métier de tanneur, voilà.
Oui, d'accord, qui continue toujours d'ailleurs du côté du Puy-en-Velay, puisqu'on a des grandes marques qui sont venues s'installer en Haute-Loire.
La tannerie reste une industrie, effectivement,
ouais,
du département.
Et donc, je sais pas s'ils en... Mais je crois qu'il y a toujours des fabriques, c'est pas très loin de chez nous, c'est Chazelles-sur-Lyon.
Tout à fait.
Il y a une fabrique de chapeaux et... Alors, je sais pas, ça continue toujours, il me semble, mais bon, il y a au moins un musée.
Alors, justement, j'ai interviewé la conservatrice du musée dans le cadre de ce livre. Oui, effectivement, j'ai visité le musée, je l'ai interviewé pour en apprendre un peu plus sur l'industrie du chapeau. Ouais.
Alors, si tu veux, j'ai une petite anecdote là pour le chapeau, parce que ça se passe d'ailleurs avec quelqu'un de Craponne qui, à l'époque, voyageait un peu et il était parti aux États-Unis pour son travail. Et pour ses enfants, il a dit, tiens, je vais ramener... est au Texas, des chapeaux de cow-boy, qu'on fait des chapeaux de là-bas. Donc il achète les chapeaux, il les ramène et il fait cadeau. Et quand ils ont tourné les chapeaux, justement, qu'ils ont regardé, et il était marqué « Made in Chazelles-sur-Lyon ». Et c'est véridique.
Ah, ouais,
donc comme quoi.
C'est la capitale, l'une des capitales du chapeau. Hein. Chazelles-sur-Lyon, c'est une ville très importante. C'est d'ailleurs pour ça que le musée est à Chazelles.
Était très loin, ils auraient pu les acheter à côté. Mais bon, pas la même saveur.
Exactement.
Alors, on va parler du choix d'Emilienne. Donc, Emilienne qui est ouvrière dans cette usine à chapeaux. Et toute l'histoire va tourner autour d'elle.
Oui, disons que Emilienne va rencontrer un chasseur de vipères, hein, qui s'appelle Firmin. Parce qu'elle elle va se faire morte par une vipère. Hein. Le livre commence sur cet événement. Mais on ne s'attarde pas sur les vipères, hein. Je le dis pour ceux qui ont peur des serpents, non, on ne s'attarde pas du tout sur cet épisode, mais j'avais envie de mettre en scène, au début du bouquin, un chasseur de vipères, parce qu'à l'époque, ce chasseur de vipères était l'élève d'un certain Courtol, alors je pense que de nombreux auditeurs en ont entendu parler, c'était un chasseur de vipères illustre, il faut savoir qu'il est décédé en 1902, victime d'une morsure de vipères, mais il a quand même tué 40 000 vipères, hein, il a 40 000 vipères à son actif, il était connu en Amérique, hein, et il faut savoir qu'à l'époque, c'était un commerce, les chasseurs de vipères étaient payés à la tête. Ils étaient payés 25 centimes à l'époque de Firmin, donc nous sommes en 1913, mais à l'époque de Courtol, pendant un certain moment, ils étaient payés la moitié plus 50 centimes, mais Courtol ramenait tellement de têtes de vipères à la préfecture qu'ils ont baissé le prix, ils l'ont coupé en deux. Donc on est passé de 50 centimes à 25 centimes. Apparemment, c'était plus rentable pour la préfecture comme ça.
Oui, alors, on parle des chasseurs de vipères. Alors moi, j'ai connu, mais c'était pas forcément des chasseurs. Eux, ils les tuaient pas, mais ils les ramassaient, moi je me rappelle, dans mon enfance. Et ils les vendaient au laboratoire qui utilisait le venin justement pour faire des vaccins contre les morsures de vipères. Et alors moi je suis pas un fanat des vipères non plus, mais je me rappelle, moi mes grands-parents étaient dans la Loire, ma grand-mère tenait un restaurant, et ils venaient manger, ils avaient des mobilettes à l'époque, et ils ramassaient le long des voies ferrées, parce qu'il y en avait énormément là, et alors ils nous faisaient voir ça, ça grouillait, je peux vous dire que c'était pas... Mais eux, ils les vendaient dans les labos, quoi.
Voilà. Mais Firmin travaille aussi sous cette forme-là, hein. Il tue la vipère, mais il la ramène aussi vivante, exactement pour la raison que tu viens d'énoncer, pour les laboratoires, les pharmacies.
Donc c'est quand même une histoire. Alors il va s'amouracher d'Emilienne, on peut dire ça comme ça.
Oui, ça tout de suite. Bon, Firmin tombe amoureux d'Emilienne, ce qui n'est pas le cas d'Emilienne, et c'est d'ailleurs l'une des parties de l'intrigue. Quel choix fera-t-elle, parce qu'elle va être courtisée par un autre prétendant. Mais effectivement, Firmin tombe amoureux d'Emilienne, qui est très belle, voilà, et qui lui paraît une femme tout à fait honnête, et il a l'intention d'en faire sa femme, mais bon, est-ce que ça va fonctionner?
Faut lire le livre, hein. On va pas aller jusqu'au bout du livre. On va vous en parler un peu du livre, mais on va pas donner, bien sûr, la chute, hein, parce que sinon ça sert à rien. Alors bon, oui, donc il va y avoir cette première rencontre. Alors après, donc il va y avoir une autre rencontre. Hein. Emilienne va avoir une autre rencontre.
Oui, donc elle
c'est
travaille
là où ça
dans...
va se corser un peu.
Voilà, disons qu'elle travaille dans l'usine de coiffe à chapeau dont on vient de parler. Et dans cette usine, il y a un contremaître, hein, qui travaille à l'atelier de dorure. Hein, puisqu'Emilienne fait de la dorure, donc elle travaille sur le fond de coiffe, hein, et donc ce contremaître, lui aussi, est amoureux d'Emilienne.
Alors bon, deux prétendants, c'est sûr que l'histoire va se complier, hein, parce que déjà, hein, alors Emilienne, son cœur balance entre les deux, carrément, ou elle a une petite préférence déjà?
Bon, on devine qu'elle a une petite préférence, mais les choses sont pas aussi simples, parce qu'elle a un frère qui est, bon, il se trouve qu'il est proxénète, c'est un petit proxénète du Pouzaro. Hein, je pense que de nombreux auditeurs ont entendu parler de ce quartier qui était à l'époque, au début du XXe siècle, un quartier malfamé, une sorte de coupe-gorge. Et effectivement, elle a un frère qui s'appelle Milou, qui est proxénète et qui lui complique également un petit peu beaucoup la vie, même, je dirais, beaucoup, beaucoup.
Oui, alors donc, ça te permet de parler de ce quartier. Tu me disais que à l'époque c'était un peu des cafés-concerts, et ça remplaçait un peu ce qu'on peut dire Pigalle, voilà, c'était un peu notre Pigalle à nous.
Alors pour ce qui est de Milou, effectivement, tu l'as justement dit, il va être propriétaire d'un café-concert, mais pas tout de suite. Le café-concert, il n'y en avait pas beaucoup au Puy-en-Velay, il y en avait quelques-uns. Mais peut-être deux ou trois, pas plus. C'était essentiellement des cafés, des bars, des cabarets, des petits cabarets où on buvait beaucoup. Le café-concert mettait en scène des chanteuses, hein. Donc c'est vrai que c'était des chanteuses, donc elles chantaient forcément. Mais après le concert, elles se prostituaient souvent dans les arrières-salles. Voilà, donc les notables côtoyaient souvent ces lieux. Et c'est des prostituées, mais qui en fait n'emportaient pas le nom. Et j'ai découvert dans les archives municipales du Puy, les archives de police, que ces chanteuses prostituées se faisaient appeler, enfin on les appelait dans ces archives, les perforées de marque. Donc ça veut tout dire, hein, elles étaient protégées par les notables, et donc elles passaient pas les visites sanitaires comme dans les maisons closes, hein. Il y en avait une, deux, il y en avait même rue du Bouillon, hein, mais je pense que les gens le savent, donc c'était des lieux un peu à part, destinés à la clientèle de passage, les touristes, les représentants de commerce, les notables, enfin voilà.
Donc, alors, dans ce roman, on continue, il y a déjà cette intrigue, et puis ça va se compliquer un petit peu, parce que dans l'histoire, il va y avoir un meurtre.
Oui.
Et ce meurtre va apparemment créer beaucoup de choses, et peut-être éloigner quelqu'un d'Emilienne.
Voilà, donc en fait, je ne vais pas dire qui va être assassiné, voilà. Mais effectivement, ce meurtre va générer une séparation, voilà. Et l'un des protagonistes du livre, du roman, va se retrouver, va s'engager à la Légion étrangère. Hein. J'avais envie de parler de ce régiment mythique. Hein. C'était aussi un petit plaisir à moi. J'avais envie de me faire plaisir et d'emmener le lecteur à Sidi Bel Abbès, en Algérie, dans la région d'Oran. Hein. Et il faut savoir qu'à l'époque, la Légion étrangère, le premier étranger était cantonné en Algérie. Aujourd'hui, c'est au Bagne, mais à l'époque, c'était quand même de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est un régiment mythique, on va dire, dans lequel s'engageaient souvent des fuyards, des gens qui voulaient disparaître un peu de la circulation. C'est ce qui va se passer pour l'un de nos héros. Hein. Et donc, j'avais envie d'immerger le lecteur dans la vieille Légion. Hein. C'est, il y a la Légion d'avant 14 et la Légion d'après 14. C'était une Légion avec des pratiques assez rudes, hein, très très rudes. Et puis, donc, j'avais envie de raconter cette Légion étrangère. Et je me suis basé, hein, sur une documentation quand même importante, puisque j'ai dépouillé, j'ai lu 23 témoignages, donc 23 livres de témoignages d'anciens légionnaires entre 1893 et 1925 pour pouvoir vraiment permettre au lecteur de ressentir ce qu'était la vie d'un légionnaire et comment on vivait légionnaire.
Ouais, alors donc ce qu'il y avait, enfin moi je connais pas tout de la Légion, mais ce qui transparaît un peu, c'est qu'il y avait un très fort code d'honneur. Les légionnaires, il faut savoir qu'ils venaient de partout, hein, parce que il y avait toutes les nationalités, hein, et c'était, mais ils marchaient tous ensemble, même si parfois ça se bagarrait un peu, mais quand il fallait aller au combat, ils étaient tous ensemble et très solidaires. Hein.
Oui, oui, il y avait, c'était vraiment la marque de fabrique de la Légion étrangère. Hein, ils étaient prêts à se sacrifier pour leur régiment, pour l'armée, pour la France, mais le légionnaire n'avait pas d'autre ami qu'un autre légionnaire. Hein. C'était vraiment bon. Il y avait des rivalités entre les régiments, d'ailleurs. Les légionnaires s'entendaient avec personne, sauf avec les spahis. Bon, c'est ce qu'on disait de la vieille Légion. Hein. Je précise bien que je ne parle pas de la Légion étrangère d'aujourd'hui. Hein, on est bien d'accord. Hein, c'est la Légion de 1913, hein, puisqu'on est en 1913. Donc, effectivement, il y avait de fortes rivalités parce qu'ils avaient aussi une éthique très particulière, un code d'honneur, cette fameuse solidarité dont tu parles, ce code du sacrifice. Hein, il fallait se sacrifier pour son pays. Et puis, il y a quand même des petites marques de fabrique qui sont notables, hein, le culte de la propreté. Ça, peut-être qu'on l'ignore, mais le légionnaire était toujours habillé impeccablement, toujours propre. Les punitions tombaient lorsque les uniformes étaient sales. Hein, la propreté, la discipline, bien sûr, on s'en doute. Et puis, cet amour du travail bien fait. Voilà, un légionnaire, bon, les légionnaires, notamment en Algérie, ont construit beaucoup de routes, beaucoup de tunnels, et c'était impeccablement fait. Donc, il y a quand même des valeurs très, très, très importantes dans la Légion. Bon, puisque tu me parles, je vais un peu dérouler ces qualités de la Légion. Et puis il y avait cette volonté d'épargner la vie des hommes. On se souvient qu'en 14-18, ça a été quand même sur les fronts de France un gros massacre, une vraie boucherie, de nombreuses vies étaient sacrifiées. Donc ce qui distinguait de la Légion étrangère de la BIF, comme il l'appelait, et c'était justement ça, épargner la Légion, épargner la vie de ses hommes. C'est-à-dire qu'on n'envoyait pas les hommes se battre à découvert, comme ça a été le cas en 14-18, hein, notamment au mois d'août, hein, où face aux mitrailleuses allemandes, les Français étaient malheureusement en rase campagne à découvert. Non, on ordonnait aux soldats de se cacher, de ramper. Tous les moyens étaient bons pour préserver la vie des hommes, parce que pour eux, il s'agissait, un légionnaire était bon lorsqu'il était vivant et non pas mort.
Donc on parle du choix d'Émilienne avec Jean Tempère aux éditions de Boré. Alors on vient de parler un grand moment de la Légion étrangère où quand quelqu'un rentrait dans la Légion, il abandonnait son passé. On voulait pas savoir ce qu'il avait fait. Hein. Alors, il était dans la Légion, c'était fini. Pour les autres, certains savaient pas ce que son camarade avait fait souvent. Hein.
Oui, et puis le légionnaire n'aimait pas ce qu'on appelle le causeur. Hein, il fallait pas essayer de savoir ce que son voisin avait fait ou pas fait, qui il était. Non, on n'aimait pas. Comme ils disaient avec leurs mots, on pif pas les causeurs. Voilà. Donc il fallait rester discret quand on était légionnaire. Et c'est vrai qu'il n'avait pas de justificatif d'identité à produire à l'engagement. Hein. C'était pour ça d'ailleurs que les fuyards, hein, et que il y a cette idée que c'était souvent des criminels. À l'époque, il y en avait un certain nombre, effectivement, pas tous, bien évidemment, hein, mais il y en avait un certain nombre. C'est ce qui occasionne, ce qui fait la différence justement entre la vieille légion et la nouvelle légion, le recrutement étant beaucoup plus fin en ce qui concerne la nouvelle légion. Voilà. Donc, effectivement, ces hommes-là s'engageaient sous un faux nom, bien évidemment, sous une nationalité qui n'était jamais française, hein, puisque c'est la Légion étrangère, même si, à l'époque, en 1913, la moitié des légionnaires, même plus de la moitié des légionnaires, étaient des Français. Hein, et on les appelait les Gaulois. Alors, comment ils faisaient pour s'engager ? Ben, ils s'engageaient sous une nationalité luxembourgeoise, belge, voilà, une nationalité d'un pays francophone.